VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. En RDC, l'armée congolaise poursuit son offensive contre les rebelles Hutus des FDLR au sud Kivu, dans l'est du pays. Les opérations ont lieu notamment dans les hauts plateaux de la région d'Uvira. Des précisions avec Justin Bitakwira, un député de la région, contacté par Eddy Isango.
Les villages ont été vidés, certains ont fui vers Sangé, d'autres ont fui vers Katalom, Sigereza ou Lemera. Mais je crois que petit à petit, ces FDLR sont en train d'aller plus encore vers les hauts plateaux de Rambo, de Vibangwa ou de Rubuga. On aurait souhaité certainement que les opérations se fassent dans le sens contraire, pour les amener vers la plaine au lieu de les amener encore dans la forêt. Mais ce sont les opérations que nous encourageons. À un coin qu'on appelle Kagabwe, il y a une certaine résistance. Il y avait quelques crépitements d'armes, mais sincèrement, la résistance n'est pas réelle.
Justin Bitakwira, un député de la région d'Uvira en RDC. Selon l'AFP, l'armée congolaise dit maintenant avoir chassé les FDLR de Moulengue et des villages avoisinants. Élaborer une feuille de route régionale pour une paix durable dans la région des Grands Lacs, c'était le thème d'une récente table ronde à Kigali au Rwanda, à laquelle ont participé des officiels et des représentants d'ONG venus de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi. Le point avec notre correspondant à Goma, Primo Pascal Ruda Igwa.
Les participants à cette rencontre de deux jours ont passé au peigne fin des propositions de la feuille de route régionale vers la paix durable dans la région des Grands Lacs. Propositions venues de la RDC, du Rwanda et du Burundi. Joséphine Kusila est du programme Starek au Sud Kivu en RDC.
Il y a de ces dynamiques de conflits qui vont au-delà des frontières et qui affectent les populations transfrontalières.
Pour Thérèse Mukaruzika, qui travaille dans le programme Paix et Réconciliation au Rwanda, il faut penser à une synergie des différents acteurs pour la réussite de cette feuille de route.
Nous devons mettre nos efforts ensemble pour arriver à un impact palpable. Quand il y a des conflits dans l'un des pays, ça se répercute dans l'autre. Donc nous devons travailler ensemble pour la promotion de cette paix durable et le développement de nos pays.
Le président du comité de la jeunesse des pays des Grands Lacs, Mutiki Kilumba, appelle les jeunes à mettre de côté les stéréotypes véhiculés par des politiciens à mal de positionnement.
Il y a trop de stéréotypes qui ont circulé et que quand on se côtoie, il y a beaucoup de stéréotypes qui tombent de soi. Dès que les gens ont des intérêts communs, ils se côtoient et beaucoup de choses tombent de soi.
Une équipe technique continue à travailler sur cette feuille de route afin d'intégrer les amendements proposés par les participants. Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigwa pour La Voix de l'Amérique.
Crise centrafricaine, les ex-présidents François Bozizé et Michel Djotodia sont prêts à signer une déclaration pour rejoindre le processus de réconciliation en RCA, d'après l'AFP. Davantage de détails avec Morgane Guiriec.
Les deux hommes, engagés depuis début décembre dans des pourparlers de paix à Nairobi aux côtés d'ex-rebelles de la Seleka et de miliciens anti-Balaka, ont paraphé un texte commun dans lequel ils disent adhérer à l'accord de cessation des hostilités signé à Brazzaville le 23 juillet 2014. Ils se disent disponibles à participer à tous les organes et structures en charge de la préparation du forum politique inclusif de Bangui et des élections à venir. Selon la source proche des négociations, ex-Seleka et anti-Balaka ont amendé l'accord de janvier qui pourrait être formellement signé avec la déclaration des ex-présidents.
Pour leur part, les autorités centrafricaines à Bangui accusent les deux ex-présidents de saper le processus de transition en RCA.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, le nouveau chef coutumier du bastion Touareg de Kidal, Mohamed Ag Intala, rejette catégoriquement toute idée d'indépendance ou même d'autonomie du nord du pays. Un message clair de paix à Bamako, Saloua Djafari.
Mohamed Ag Intala tourne ainsi le dos aux ambitions séparatistes de beaucoup. Deux mois seulement après avoir succédé à son père, comme Aménokal, le nouveau chef traditionnel des Adrars des Infogas s'est dit contre l'indépendance du Nord pour l'unité territoriale, selon l'agence France Presse. Il va même jusqu'à souhaiter que Kidal devienne capitale du Mali. Ag Intala prend ainsi délibérément le contre-pied de certains groupes rebelles Touareg, actuellement en négociation avec le gouvernement à Alger, revendiquant l'autonomie d'Azawad. Et pour faire passer son message de paix, le coutumier de Kidal est prêt à sillonner le Mali avec d'autres chefs de communauté. En attendant, la paix reste très fragile dans la région. Depuis l'été dernier, la zone a connu une recrudescence d'attaques, notamment djihadistes, visant les forces maliennes ou étrangères, mais aussi civiles.
Pas de surprise au Togo, le président Fornia Singbe, au pouvoir depuis 10 ans, va briguer un troisième mandat. Il a été investi hier par son parti, Nicolas Pinault.
C'est à Kara, fief d'Enyasimbe, dans le nord du Togo, que le parti présidentiel a tenu sa convention d'investiture. Les 700 délégués de l'Union pour la République ont donc choisi à l'unanimité Fornia Singbe comme candidat du parti pour la présidentielle. Le président togolais a pris la succession de son père, le général Nyasimbe Iyadema, c'était en 2005, et on voit mal ce qui l'empêcherait de remporter le scrutin présidentiel à un tour, qui aura lieu le 15 avril prochain. Au moins 7 autres candidats ont déjà annoncé leur candidature, même si l'opposition et la société civile jurent vouloir empêcher cette réélection attendue. Depuis 2002, la constitution togolaise ne fixe aucune limitation des mandats présidentiels depuis que Nyasimbe Iyadema avait supprimé cette restriction. Des violences sont à craindre selon les observateurs. En 2005, les violences électorales avaient fait, selon l'ONU, entre 400 et 500 morts.
Actualité américaine. Lors d'une audience du Congrès, le secrétaire d'État John Kerry a attaqué indirectement le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, déclarant que ceux qui critiquent un éventuel accord nucléaire avec l'Iran ne savent pas ce dont ils parlent. Des précisions avec Camille Gros-Didier.
L'administration Obama aurait-elle déclenché une offensive contre le premier ministre israélien, invité par l'opposition républicaine à prononcer en mars un discours devant les deux chambres du Congrès? Le président Obama a déjà indiqué qu'il ne rencontrera pas Benjamin Netanyahou à cette occasion, au motif qu'il ne veut pas s'immiscer dans la campagne pour les législatives prévue le 17 mars en Israël. Mais mardi, sa conseillère à la sécurité nationale, Susan Rice, a estimé sur une chaîne de télévision américaine que le discours de Netanyahou au Congrès allait introduire une partialité destructrice dans les relations bilatérales entre les États-Unis et Israël. Pour sa part, le secrétaire d'État John Kerry a semblé dire aux parlementaires américains que M. Netanyahou ne comprend rien lorsqu'il accuse les grandes puissances d'avoir trahi leur promesse d'empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire.
Et maintenant, la minute économique avec Nathalie Barge.
Le président guinéen Alpha Condé a nommé shérif Haïdara, alias le shérif de Washington, conseiller technique auprès du ministre d'État chargé d'investissement et des partenariats publics et privés, Kassori Fofana. J'ai demandé à shérif Mohamed Abdallah, président du groupe organisé des hommes d'affaires, comment la nouvelle est perçue dans le milieu du business à Conakry.
Monsieur Shérif Haïdara est un cadre avéré, bien averti. Nous pensons qu'il peut apporter un changement. Étant donné qu'il a fait partie de la diaspora, il a beaucoup vécu, il a l'expérience. Donc nous pensons qu'il peut faire quelque chose.
Le ministre sud-africain des Finances, Nhlanhla Nene, a annoncé ce mercredi un budget de rigueur pour l'année fiscale 2015-2016, indique l'AFP. Pour stabiliser la dette et réduire le déficit, il prévoit une baisse des dépenses assortie d'une hausse des impôts sur le revenu qui n'ont pas été augmentés depuis 20 ans. Il compte stabiliser la dette publique à 45% du PIB contre 48% actuellement et l'État devra diminuer ses dépenses de 25 milliards de randes. Les éleveurs nigériens regroupés au sein du RECAN ont lancé la campagne « Sauvons les terres pastorales » afin d'attirer l'attention des décideurs sur la disparition progressive des pâturages au Niger, indique l'agence de presse africaine. À ce rythme, les aires de pâturage risquent de disparaître dans 40 ans, alertent les associations paysannes.
Merci Nathalie Barge. Pour terminer, aux États-Unis, arrestation hier de 3 habitants de New York accusés de complot visant à soutenir le groupe djihadiste de l'État islamique et aussi de vouloir tuer le président Barack Obama. Il s'agit de 2 Ouzbeks et d'un Kazakh selon le département américain de la justice qui a précisé que 2 d'entre eux s'apprêtaient à partir en Syrie pour aller combattre dans les rangs de l'État islamique. Ils étaient également prêts à mener des attentats aux États-Unis, notamment contre les forces de sécurité s'ils ne réussissaient pas à rejoindre l'État islamique, d'après les autorités. En Syrie même, au moins 220 chrétiens assyriens, des nestoriens, kidnappés par l'État islamique dans le nord-est du pays. C'est ce qu'annonce l'Observatoire syrien pour les droits humains, basé à Londres. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de